bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on vous fait entendre l'écho de l'actualité. Et cette semaine, elle résonne du côté des plus de 50 ans. Les seniors, non, les travailleurs expérimentés.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'était le grand oublié du débat sur les retraites, le chômage des seniors. Aujourd'hui, seulement un tiers des 60-64 ans occupe un emploi dans l'Hexagone. C'est largement en dessous de la moyenne européenne. En octobre dernier, la Cour des comptes pointait un risque croissant d'appauvrissement chez les plus de 60 ans et un poids de plus en plus lourd pour la solidarité nationale. Le rapport Bellon, commandé par le gouvernement, a été remis cette semaine. Objectif affiché, booster l'emploi des seniors à l'heure où se profite file un nouvel allongement de la durée du travail. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Les seniors peuvent-ils rester plus longtemps sur le marché du travail ? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui avec nos trois invités. À 14h45, on retrouvera notre partenaire d'Alternatives économiques, Guillaume Duval, puis la bibliothèque de l'Écho. Aujourd'hui, Patricia Comin nous dira tout de l'ordolibéralisme. Et pour parler de l'emploi des seniors, trois invités autour de la table. Annie Jolivet, économiste du travail, chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers. François Langot, professeur à l'Université du Mans et chercheur affilié à l'École d'économie de Paris. Et Jean-Paul Domergue, ancien directeur juridique de l'INEDIC de 1986 à 1991 et responsable du plaidoyer au sein de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Vous vous voyez où dans 10 ans ?
À 80 ans ?
Oui, c'est ça, oui. Bon, enfin...
Il y a un problème en France, on est jeune de 20 à 30 ans, on n'a pas de boulot, de 30 à 45 ça va à peu près, et après on devient senior.
Bonjour, Ben Whittaker, j'ai rendez-vous à 15h55 avec Madame Austin.
À 15h55 ? Je croyais qu'elle devait voir son nouveau stagiaire.
C'est moi.
Désolée, vous êtes son stagiaire ? Quel âge avez-vous ?
70. Et vous ?
J'ai 24 ans. Je sais, je fais plus vieille. C'est le travail qui vous vieillit. Est-ce qu'il n'y a pas de chance dans votre cas ?
Je gagnais un salaire qui était potable avant. Et là, pouf, on ne vaut rien dans cette société. J'ai pas l'âge d'aller en retraite. On se bat pour rien. C'est-à-dire, on met de l'énergie, de l'effort dans rien. Il faut que ça s'arrête, tout ça.
La contrepartie patronale, si vous voulez, de l'âge pivot ou de l'allongement de la durée de travail, c'est qu'on soit au rendez-vous pour l'emploi des seniors.
Un montage réalisé par Anna Holweck où l'on entendait entre autres Sophie Bellon, l'une des autrices du rapport sur l'emploi des seniors, et Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Alors c'est la Cour des comptes qui le dit, les chances de retrouver un travail chutent brutalement après 52 ans. Pourtant le gouvernement propose aujourd'hui de repousser encore l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, Annie Jolivet ?
Ah si, effectivement, il y a un paradoxe, mais qui est dénoncé, enfin qui est souligné depuis la réforme Fillon de 2003. La difficulté, c'est qu'en repoussant l'âge de la retraite, alors l'âge de référence, hein, celui qu'on appelle aujourd'hui l'âge légal, forcément vous allongez la durée pendant laquelle un certain nombre de personnes peuvent être hors de l'emploi, soit au chômage, soit assez souvent aussi dans des situations d'inactivité qui ne sont pas de la retraite et parfois sans aucun revenu.
Est-ce à dire que si l'on souhaite que les gens travaillent plus longtemps, François Langot, il faut nécessairement mettre en place un plan ambitieux en faveur de l'emploi des seniors ?
Alors oui, il faut mettre un plan ambitieux en faveur de l'emploi des seniors, mais je pense que ce plan ambitieux ne peut passer que par un allongement de la durée d'activité. Parce qu'en fait, effectivement, on peut voir actuellement que le taux de chômage des seniors augmente. Ça, c'est un fait. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'à côté de cela, le taux d'emploi des seniors est la seule composante de l'emploi en France qui augmente, et ce depuis le milieu des années 2000. Donc, au fur et à mesure des réformes, en éloignant l'âge de retraite des âges 50-55 ans, eh bien, de plus en plus de Français conservent leur travail et obtiennent même de nouveaux emplois à la fin de leur carrière, et ce qui permet d'augmenter énormément le taux d'emploi des seniors. Donc, je pense que la causalité peut être inversée, au contraire, dire que allonger la distance, rester plus longtemps au travail, permet au contraire de donner des incitations à travailler plus longtemps et donc encourage le taux d'emploi.
Donc, vous dites que ce n'est
n'est pas un paradoxe. Effectivement, vous soulevez un clivage important qui est, est-ce que le fait de reculer l'âge de départ légal à la retraite a une incidence positive sur l'emploi des seniors ou négative? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Domergue?
C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un effet horizon. Lorsque on reporte l'âge normal de départ à la retraite, le taux d'emploi augmente un peu, mais pas suffisamment. C'est-à-dire il augmente pas autant qu'il le faudrait. Ce qui fait que chaque fois, il y en a à peu près la moitié de la tranche d'âge concernée qui se trouve soit au chômage, soit, comme le disait Annie Jolivet, en inactivité, c'est-à-dire inactif, c'est-à-dire pas en chômage, soit en maladie ou dans ce qu'on appelle le halo du chômage ou en rien du tout.
C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a environ la moitié des personnes qui liquident leur retraite qui ne sont plus en emploi.
Voilà, exactement.
Alors ça va être intéressant de voir un petit peu les différentes causes à cela et notamment les causes historiques. Comment est-ce qu'on peut d'abord définir ce qu'est un senior, Annie Jolivet, et peut-être quelles sont les représentations qui sont associées à ce terme?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un senior? Alors, depuis qu'on a commencé l'émission, là, dans l'esprit de tout le monde, il est clair que c'est un seuil d'âge qui définit un senior et que quand on a passé ce seuil d'âge, on est considéré comme senior.
En se demandant si c'est plus de 50 ans, plus de 55
ans. Oui, alors, je pense qu'il y a une grande différence entre un raisonnement qui s'appuie sur des statistiques globales et qui essaye de suivre des phénomènes, et puis l'idée que à 55 ans, on est senior et que le mot senior a un sens bien précis et identique pour tout le monde. Moi, je suis plutôt dans l'idée que il est largement temps maintenant d'arrêter de se référer à des seuils d'âge comme si ça avait un sens quelconque, hein, et plutôt de réfléchir de façon continue, sans même plus poser la question dans l'emploi et dans le travail avec les collègues, par exemple, ou quand on est directeur de ressources humaines, c'est pas la question de savoir si la personne a 55 ans. La question, c'est de savoir comment elle est dans son emploi, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce qu'elle apporte elle-même, dans le cadre d'un travail de collectif.
Le fait de s'intéresser trop à l'âge, si on vous comprend bien, Annie Jolivet, ça entraîne justement peut-être ces préjugés, ces fausses représentations sur l'inefficacité présumée des plus de 50 ans dans le monde du travail, François Langot?
Alors, l'inefficacité, non. Les seniors sont les personnes les plus efficaces sur le marché du travail. Quand on regarde les chiffres de la productivité et également, du coup, comment les gens sont rémunérés, il est clair que être senior, c'est quand même quelqu'un qui est expérimenté, comme vous avez intitulé l'émission, d'ailleurs. Donc,
je dis pas que c'est la réalité, mais ce sont des représentations qui existent.
C'est une représentation qui existe, mais elle est énormément conduite par le fait que quand on a un âge de retraite bas, évidemment, investir dans quelqu'un qui va rester dans l'entreprise 3 ou 4 ans, ça fait court. Si cette personne à 55 ans peut encore rester dans l'entreprise 10 ans, ben il est clair que beaucoup de décideurs d'entreprise ne vont plus regarder l'âge, parce que à 55 ans, on a encore 10 ans devant soi pour travailler en entreprise, donc effectivement, il y aura d'autres rotations qui se feront, où la personne pourra partir pour une mobilité géographique.
Donc mais le là, problème du coût, du fait que les prétentions salariales des plus de 50 ans seront plus importantes, demeurera.
Non, parce que s'ils ont plus d'expérience, ils sont également plus productifs. Donc ça, je pense pas que ce soit vraiment un problème de coût. Le coût doit être toujours compensé par une productivité. A priori, les seniors, quand on le voit dans nos données, ils sont quand même plus productifs que les jeunes parce qu'ils ont appris leur travail, ils ont plus d'expérimentation. Donc, c'est quand même des gens plus qualifiés, a priori. Donc ça, il n'y a pas de problème de coût. Le problème, c'est est-ce que j'investis sur quelqu'un? Est-ce que j'embauche quelqu'un? Ou moi-même, sur le marché du travail, est-ce que je vais investir pour trouver un nouveau travail ou me former vers un nouveau travail si je sais qu'à 55 ans, dans 2-3 ans, j'aurai le droit à un dispositif qui me permet de partir en retraite?
Bon, en l'occurrence, le départ à la retraite s'est fait en moyenne en 2018 à 62 ans et 7 mois. Sur les raisons qui poussent les entreprises, enfin plus exactement, qui font que les entreprises sont réticentes à embaucher les plus de 50 ans, Jean-Paul Domergue. Est-ce que c'est parce que cet âge légal est trop bas, comme le dit François Langot, et qu'elles ont peur de ne pas pouvoir investir suffisamment dans ces gens?
Alors, Solidarité Nouvelle face au chômage, la perception qu'on a est un peu différente. C'est que on considère que les entreprises, ne soutiennent pas à partir d'un certain âge, de fait, hein, les seniors à maintenir leur employabilité. C'est-à-dire, les actions de formation qui leur sont proposées sont moindres, c'est-à-dire beaucoup moindres que pour d'autres classes d'âge. Et finalement, ils sont mis dans une situation où, compte tenu des clichés qui tournent autour des seniors, qui sont moins adaptables, qui sont,
moins fort, connaisseurs des technologies. Ce que vous dites, c'est que c'est parce qu'on ne les forme pas suffisamment tout au long de leur carrière.
Mais ce sont des images fausses. mais qui perdure, parce que on a des comportements qui consistent et qui et en fait on reste dans la culture de ce qui des années 70 où il était considéré que les problèmes d'emploi on devait les traiter avec des mesures de pré-retraite. Donc ça reste dans la culture souvent des ressources humaines très
aujourd'hui encore dominant.
Et si vous voulez, il y a un décalage entre en fait ce qu'il faudrait faire et ce que font les recruteurs.
François Langot, sur la responsabilité des entreprises dans ce manque d'employabilité des seniors.
Non, c'est vrai que les entreprises jouent un rôle, ça c'est évident. Après, là encore, pour la formation et pour les possibilités d'adaptabilité des travailleurs, il est clair aussi que l'horizon joue énormément. C'est-à-dire que quand je suis entrepreneur, que j'ai une population d'employés qui a autour de 55 ans, je sais qu'une grande partie d'entre eux pourront partir relativement tôt. Si l'âge de la retraite n'est pas décalé, eh bien, effectivement, est-ce que je vais faire l'investissement pour former ces gens aux nouvelles technologies? Ce n'est pas évident. Peut-être que là, j'aurais peut-être intérêt, surtout si l'État me permet d'avoir des dispositifs où les seniors seront relativement bien rémunérés sans travailler, réembaucher des jeunes. Donc ça, c'est...
Est-ce que le fait que la France en Europe soit moins bonne ne va pas dans le sens de ce que dit François Langot, Annie Jolivet, parce que l'âge de la retraite serait trop bas, l'âge légal de départ à la retraite trop bas en France, par rapport à ses voisins européens?
Alors, par rapport aux voisins européens, on a un âge d'ouverture des droits qui est aujourd'hui à 62 ans, et on a un âge d'annulation de la décote qui est à 67 ans. Donc, les gens, en réalité, liquident leur retraite quelque part entre 62 et 67 ans pour la plupart, avec des variations. Et pour le coup, je trouve une incertitude pour les employeurs que... voilà, la réflexion de François Langot a l'air de penser qu'on a en tête un âge qui serait le même pour tout le monde, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Donc en gros, quand vous avez quelqu'un qui a, admettons, 58 ans, déjà aujourd'hui la perspective c'est plutôt qu'il parte ou qu'elle parte à 62 ans, sauf cas particuliers comme la retraite anticipée longue carrière. Et ensuite, vous pouvez quand même vous dire qu'une partie de ces personnes-là pourrait éventuellement rester jusqu'à 67 ans,
voire 70. Mais comment on explique cette différence, le fait que la France, que la proportion des 60-64 ans en emploi, elle soit nettement inférieure en France, 32% par rapport à l'Union européenne, 45% en moyenne?
Alors, faut partir de très loin, parce qu'on a, en fait, bon, tout à l'heure vous parliez des années 60-70, aujourd'hui, en fait, on est en train d'atteindre, voire de dépasser le taux d'emploi, le taux d'activité qu'on avait au début des années 70 pour cette catégorie de population. Mais il faut aussi s'interroger sur ce qui faisait qu'à cette époque-là, on était déjà à 50%, on n'était pas à 80% d'emploi. Alors qu'à l'époque, l'âge de la retraite
était
environ
à 40% de taux d'employabilité des seniors des années 60.
Oui, bon, mais au début des années 70, on était à peu près à 50%. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'époque, la retraite était à 65 ans. C'était pas 62, mais c'était 65, et on avait déjà une partie des gens qui n'étaient plus en emploi. Donc la question, c'est pourquoi. Il faut là-dessus se dire que, bon, déjà à l'époque, on savait qu'une partie des gens qui partaient à la retraite n'étaient plus en emploi ou avaient des problèmes de santé. Faut lire des travaux, les travaux de Catherine Omnes ou les travaux d'Anne-Sophie Bruno, qui montrent bien à quel point l'inaptitude a servi de variable d'ajustement. Et ensuite, on a eu toute cette vague de pré-retraite, qui s'est déclenché à partir de la fin des années 70 et qui a duré jusqu'au début des années 2000, plus un autre aspect qui est l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à 60 ans.
Alors il faut s'arrêter sur cet aspect qui est effectivement très important. Il faut expliquer qu'entre 65 et 2000, les gouvernements successifs ont cherché à favoriser la sortie des seniors du marché du travail parce que l'objectif c'était à ce moment-là de lutter contre le chômage de masse, François Langot.
Alors... attention, enfin, vous allez un petit peu loin. Je pense que les gouvernements ont mis en place des plans de retraite pendant les années 70, effectivement, quand la première crise est apparue. Donc là, une des solutions, ce qui a été mis en place en France a été de mettre des pré-retraites en place. Donc ça a diminué fortement le taux d'emploi des seniors, effectivement, de manière mécanique, puisque à partir de 60 ans, on leur offrait la possibilité d'être rémunérés sans travailler entre 60 et 65 ans.
Il y a eu aussi l'instauration de la dispense surtout, de recherche d'emploi en 1984.
Et surtout, il y a eu surtout le 83, l'abaissement de l'âge légal de la retraite de Mitterrand. C'est ça, la grosse perte en termes d'emploi en France, elle se situe exactement à cette date-là. C'est 10 points de perdu sur les 55-60 ans. 10 points d'emploi. C'est énorme. Donc ça, ce phénomène a effectivement conduit vers le bas l'emploi des gens qui étaient jeunes, qui avaient 55 ans, et ça de manière très très longue, puisque aujourd'hui, depuis 2 ans simplement, on a réussi à récupérer ce taux d'emploi de 1981. Mmh. C'est quand même énorme.
Donc, mais cette tendance est amorcée, le retournement de tendance est amorcé à partir du milieu des années 90.
La première réforme, effectivement, c'est 93, le gouvernement Balladur, qui est effectivement le premier gouvernement qui a le courage d'allonger la durée de cotisation et qui, effectivement, va stabiliser la diminution tendancielle de l'âge de départ en retraite en France.
Annie Jolivet.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on regarde la façon dont les chiffres... Alors bon, on peut discuter sur les chiffres, hein, mais en réalité, la baisse du taux d'emploi s'est enclenchée avant l'âge de la retraite soit abaissé en 81 à 60 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, les mécanismes liés au développement du chômage, à des restructurations dans l'économie et au premier développement des pré-retraites avaient déjà commencé à diminuer le taux d'emploi. Donc c'est pas le passage à 60 ans qui a créé cette condition. Il a accompagné une tendance qui était déjà présente.
Comment vous vous situez, Jean-Paul Domergue, dans ce qui oppose ici François Langlois et Annie Jolivet?
Tout à fait, puisque en fait, ce qu'on appelait les mesures de pré-retraite de garantie de ressources à l'époque permettaient à des personnes même de 55 ans hein, de quitter leur emploi pour bénéficier donc d'un revenu de remplacement qui pouvait aller jusqu'à 70% de leur ancien salaire. Donc toutes ces mesures ont encouragé les départs des seniors et cela a duré donc jusqu'à au début des années 2000, oui.
C'est 2003 qui est une date clé, parce qu'à ce moment-là, ce qui est clairement affiché par la réforme des retraites cette année-là, c'est la volonté de garantir l'équilibre du système des retraites en maintenant davantage les seniors sur le marché de l'emploi.
Tout à fait. Mais si vous voulez, en fait, nous, on considère que les comportements qu'ont les entreprises vis-à-vis des seniors, eh bien, résulte en fait de ces pratiques hein, ou de ces modes de gestion des ressources humaines qui ont été mises en œuvre au cours de ces années et elles restent imprégnées de cela. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire évoluer hein, aujourd'hui.
L'un des enjeux, effectivement, c'est de faire évoluer les représentations, Annie Jolivet, et c'est aussi l'un des objectifs définis dans le plan, ou du moins dans le rapport qui a été rendu par Madame Bellon cette semaine.
Oui, alors ça fait partie des propositions qui sont avancées, mais pour reprendre la question du maintien en emploi. Tout à l'heure, je soulignais à quel point l'inaptitude avait servi de mode de sortie avant qu'il y ait les pré-retraites et avant qu'on abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. Il y a aussi une des propositions qui consiste à faire un effort pour prévenir l'usure professionnelle. Et ça veut dire que, en fait, les pré-retraites ont masqué un problème qu'on avait anticipé, on savait qu'il allait revenir au moment où les pré-retraites allaient disparaître, c'est-à-dire dans quelle mesure les gens sont capables de rester en emploi jusqu'à la retraite dans les emplois qu'ils occupent. Et là-dessus, on tombe sur des vraies questions de prévention de l'usure professionnelle, y compris à des âges jeunes, de réduction des accidents du travail, de réduction des maladies professionnelles. Cette question-là, elle revient et c'est normal.
Vous parliez de la nécessité de sortir de la définition du senior autour d'un âge palier, Annie Jolivet, mais il faut peut-être quand même distinguer les 55-59 ans et les 60-64 ans, ceux qui ont tout de même le plus de mal aujourd'hui à trouver un emploi. Et là où la France se situe largement en dessous de la moyenne européenne, François Langlois, c'est pour les 60-64 ans.
Alors, pour les 60 ans et plus, le fait qu'on soit beaucoup moins bon que nos voisins vient du simple fait arithmétique que comme notre âge de départ en retraite est beaucoup plus faible, évidemment les gens partent en retraite en France beaucoup plus tôt.
Est-ce que ça dépend pas aussi de la croissance économique, par exemple?
Non, la preuve que non, puisque regardez, pendant la crise, la crise où l'emploi a chuté, la seule composante de l'emploi en France qui a continué à croître pendant cette crise économique forte, c'est l'emploi des seniors. Pourquoi? Parce qu'à cette même période, il y a eu aussi 2 réformes qui ont allongé la durée d'activité.
Annie Jolivet, sur la place de la croissance économique.
Bien sûr que la croissance économique joue. En fait, il y avait eu un rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques en 2007 qui avait bien pointé qu'un des facteurs prédominants pour le maintien en emploi des seniors, c'était vraiment le fait d'avoir une croissance économique et des créations d'emplois, et donc un chômage plutôt réduit. C'est quand même pas un hasard si les pays qui s'en sortent le mieux en termes de taux d'emploi, la Suède, la Finlande, alors j'en oublie parce que dans le plan de tête, il y en a pas mal, le Royaume-Uni, ce sont des pays...
C'est l'Islande qui est en tête.
Bon, l'Islande est un peu spécifique, on pourra en parler si vous voulez, mais donc tous les pays qui sont en tête sont en fait des pays qui avaient déjà un taux d'emploi élevé et qui ont connu très peu de périodes de chômage massif. Voilà, la Suède est un cas flagrant, mais aussi le Danemark, par exemple.
Donc, pourquoi l'Islande est un cas spécifique?
Parce que c'est un tout petit pays où la main-d'œuvre n'est pas extensible. Il y a quand même relativement peu d'immigration. Et puis, c'est un pays où tout le monde est au travail, que ce soit les jeunes d'âge scolaire et y compris des gens très âgés.
Donc... Je crois que c'est 80% des seniors qui en Islande continuent à travailler, là oui, où oui, c'est 40% au Luxembourg. Je crois que c'est les deux extrêmes.
Ouais, le travail est une valeur très présente, mais dans la vie quotidienne, c'est pas l'idée de s'imposer un travail rémunéré pour avoir une rémunération. C'est l'idée qu'on travaille parce qu'on reste actif. Donc c'est vraiment un modèle de société très différent.
Pour revenir sur la croissance, je trouve quand même que on peut effectivement regarder tous les pays qui nous entourent, mais ce qui est intéressant, je trouve, moi, pour l'expérience française en tout cas, c'est qu'on a vécu tous cette crise, et finalement, ceux qui s'en sont le mieux sortis sur le marché du travail pendant cette crise, ce sont les seniors, parce qu'il y a eu des réformes du système de retraite à ces mêmes périodes. Donc ça, effectivement, on peut dire après, comparons-nous aux Allemands, aux Belges, aux Scandinaves, etc. Oui, mais nous, on a aussi, dans notre pays, au sein de notre population, des écarts de chance qui ont été vraiment transformés par des réformes. Et pour une fois que la France fait des réformes,
on vous mettra clairement pas d'accord là-dessus, mais je voudrais vous entendre, Jean-Paul Domergue, sur cette question du chômage et le fait que pour beaucoup de seniors, il s'agit d'un chômage de longue durée.
Exactement.
Et l'exclusion des seniors du marché du travail, ça risque de créer une hausse de trappe à pauvreté chez les plus de 60 ans, ça c'est la Cour des comptes qui le dit.
C'est vrai que le taux de chômage des seniors est plus faible que les autres catégories, les autres tranches d'âge, puisqu'on arrive à 6 et quelques pourcents, mais par contre le chômage de longue durée est beaucoup plus élevé, puisqu'on arrive dans les 670 jours d'inscription à Pôle emploi en moyenne, contre environ pour les 25-50 ans, 400 jours. Donc l'écart est... Donc ce qui veut dire que pour eux, lorsqu'on tombe en chômage, on y reste. Mmh. On a un mal fou à reprendre une activité, et si on la reprend, ce n'est pas une activité stable. Hein. C'est souvent des activités... discontinue, des CDD, voilà.
Donc le risque d'appauvrissement est réel.
Ah oui, tout à fait.
Annie Jolivet, sur cette question aussi, sur les seniors qui sont le plus touchés par le chômage, justement, qui sont-ils?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question, hein, mais pour faire la suite de ce que disait Jean-Paul Domergue, on a effectivement un taux de chômage qui est plutôt plus bas pour les seniors, mais on voit que... Alors les seniors, je vais d'ailleurs me corriger tout de suite, pour les chômeurs âgés, mais par contre, on voit à quel point le nombre d'inscrits à Pôle emploi explose. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des demandeurs d'emploi qui ont largement passé les 63, 64. On va en arriver à des gens qui chercheront un emploi 66, 67 ans. Alors, j'insiste là-dessus parce que les recruteurs ne sont pas du tout habitués à ça. Donc, dans les métiers en tension, ça pose pas forcément de difficultés si la personne est qualifiée et en bonne santé. Mais évidemment, dans les métiers où on est en concurrence avec d'autres chômeurs éventuellement plus jeunes, c'est là où la difficulté à trouver un emploi est très importante. J'ajouterais juste une chose, hein, pour savoir qui, vous avez forcément dans les chômeurs âgés des gens qui appartenaient à des secteurs qui sont en restructuration. Où les établissements sont en train d'être fermés. Et vous avez aussi beaucoup de gens qui sont dans des territoires dans lesquels les possibilités d'emploi sont réduites.
On peut penser aux Hauts-de-France, par exemple, en particulier avec le secteur de la sidérurgie, de la métallurgie, où il y a beaucoup de gens faiblement qualifiés.
Dès l'instant que vous avez dans une petite ville moyenne, vous avez un établissement, une usine ou un établissement quelconque qui ferme, c'est là où vous pouvez avoir des gens qui vont rester durablement au chômage parce que dans un rayon géographique relativement correct, vous n'avez aucune autre alternative massive.
Jean-Paul Demercq, le profil des seniors qui sont touchés par le chômage. On a pu lire dans un article de La Croix, par exemple, que c'était majoritairement des femmes peu diplômées et en mauvaise santé. C'était en tout cas la population la plus touchée.
Bien sûr que ceux qui ont des problèmes de santé, c'est un élément de plus, un frein supplémentaire à la reprise de travail. Tous ceux qui sont moins qualifiés, évidemment, tous ces éléments pèsent encore plus sur les conditions dans lesquelles on peut se retrouver un emploi, bien sûr.
François Langot.
Alors, oui, juste pour éclairer un peu qui sont les gens qui sont au chômage et qui restent au chômage parmi les seniors. On a fait un testing avec des collègues justement pour un peu tester les employeurs sur les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir par rapport aux seniors. Alors effectivement, il y a quelques points qui sortent assez clairement dans les testings. C'est qu'une personne qui s'affiche comme étant potentiellement éligible au dispositif carrière longue sera beaucoup moins appelé que quelqu'un qui ne l'est pas.
C'est-à-dire ?
Donc, quelqu'un qui se déclare finalement dans son CV comme étant très proche d'un âge de la retraite. Donc ça, effectivement, ça le discrimine en termes d'obtention d'un entretien d'embauche. Quelqu'un aussi qui va, par exemple, postuler dans le secteur de l'informatique avec un diplôme qu'il a eu depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Bon, là, évidemment, dans un secteur où les technologies ont énormément évolué et très rapidement, là, il sera également discriminé. On a aussi le cas, et c'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez les femmes, etc., c'est un petit peu bizarre, c'est que nous, on a au contraire le cas de femmes qui étaient licenciées d'un secteur ouvrier dans nos testings, et on les envoie en CV fictif, et qui demandent un emploi dans les secteurs de métier à la personne. Là, ces femmes âgées sont très très vite recrutées.
Elles ont plus de possibilités de reconversion.
Contrairement exactement au même profil d'un homme licencié d'un secteur industriel qui va vouloir se mettre à l'emploi à la personne, eh bien là, l'employeur ne l'appellera quasiment pas. Donc on voit bien qu'il y a des stéréotypes qui sont effectivement dans la société française, qui sont que les personnes, les employeurs ont des visions, la femme va s'adapter plus vite, va apprendre plus vite un métier de service à la personne alors qu'elle était ouvrière. Par contre, un homme dans exactement du même type, le même âge, etc., n'aura aucune proposition d'entretien d'embauche. Ça, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes qu'il faut combattre, mais ça, c'est aussi les émissions, la culture, savoir est-ce que les gens savent exactement ce que font leurs voisins, quels types de métiers sont faits par l'ensemble de la population. C'est très important de véhiculer des bonnes statistiques pour que les gens n'aient pas cette représentation qui date des années 70.
Et cette employabilité des seniors est d'autant plus importante que ça risque de peser de plus en plus sur la solidarité nationale. Ce que dit la Cour des comptes, c'est que l'exclusion des seniors du marché du travail représenterait environ 1,5 milliard d'euros par an. Donc, sur un plan purement économique, on voit que c'est une nécessité, François Langot, et on peut citer un autre chiffre de la Cour des comptes qui dit que les montants du RSA versés aux plus de 60 ans ont explosé de 157% en 10 ans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des entreprises qui se déchargent sur les minima sociaux et sur l'assurance chômage ?
Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on prône une société où la récompense est de pouvoir travailler, donc effectivement, on peut allonger l'âge de la retraite parce que les gens sont quand même en France en très bonne forme. Je vous rappelle quand même qu'on a l'espérance de vie la plus longue des pays de l'OCDE quasiment. Donc on n'a pas non plus, il n'y a pas de problème structurel en France de santé. Donc on peut travailler plus longtemps. Maintenant, il est clair que si les gens travaillent plus longtemps, il faut aussi accepter qu'ils soient de temps en temps au chômage après 60 ans. Et donc, il est normal que le marché du travail des seniors converge vers le marché du travail des gens d'âge plus modéré. Parce que, tout simplement, ils feront des rotations sur le marché du travail. Ils seront de temps en temps au chômage pour chercher un nouvel emploi. Et tant mieux que le marché du travail des seniors converge vers celui des plus jeunes, avec 8% de chômage. Si un jour ça pouvait arriver en France, que quelqu'un qui est entre 50 et 60 ans soit avec 8% de chance au chômage, on aurait déjà fait un grand pas en avant, me semble-t-il.
Sauf que vous dites qu'on vit plus longtemps et donc on peut travailler plus longtemps. Mais le problème, c'est que l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même que l'espérance de vie tout court, Niamh Olivet.
Oui, effectivement, il y a un décalage et qui affecte très inégalement les catégories socioprofessionnelles. Donc c'est une des raisons qui explique l'attention portée à la pénibilité du travail et au fait qu'on voudrait mettre en place, pas moi spécialement.
Mais ça fait partie des propositions, voilà, en effet, la prévention
oui,
pour que les gens ne
alors,
soient pas en
santé. Il y a une réflexion sur des conditions qui, dans le parcours professionnel, pourraient ouvrir des droits à partir plus tôt. C'est aujourd'hui la retraite anticipée longue carrière. C'était aussi l'objectif du compte pénibilité, en accrochant ça quand même avec une idée de prévention. Mais
Mais là, alors ça y est, j'ai perdu le fil du coup.
Sur le fait d'améliorer l'emploi des plus de 50 ans, et oui, de passer par la prévention pour que les gens...
Oui, la prévention, c'est important. Alors, non, en fait, ce que j'avais en tête, c'était... François Langlois, à l'instant, parlait du fait que les gens ont les recruteurs ont des stéréotypes et que ça bloque les recrutements. Effectivement, la tendance du marché du travail, c'est qu'on tend vers une situation où aujourd'hui, les gens plus âgés, comme les plus jeunes d'ailleurs, ne seraient pas considérés différemment du reste de la population. Et donc, effectivement, il faut s'attendre à avoir plus de chômeurs. C'est d'ailleurs le cas, c'est ce qui s'observe. Mais ceci dit, on n'a pas aujourd'hui les taux de recrutement des âgés qui sont conformes à cette évolution. Donc, la vraie question, c'est de savoir comment on pousse le recrutement. Et là-dessus, je voudrais juste dire, il suffit pas de dire « soyez plus sympas avec nos vieux ». Enfin, si je traduis un peu vulgairement le côté stéréotype.
Il s'agit vraiment de valoriser les compétences.
Non, mais il y a aussi une vraie question à se poser, c'est quels sont les prérequis des postes qui sont proposés au recrutement. Et il y a des démarches en particulier que je trouve très intéressantes, c'est des démarches d'intermédiation avec une démarche qu'on appelle IOD, donc intervention sur l'offre et la demande, qui consiste en fait à mettre face à face un demandeur d'emploi âgé avec un employeur qui ne se connaissent pas avant, qui n'ont donc pas d'obstacle a priori à se rencontrer. Et la discussion porte sur le vrai travail qui va se faire avec les compétences réelles de la personne et dans le cadre réel de l'entreprise. Mmh. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des possibilités d'embauche qui se dessinent, qui n'étaient pas prévisibles avant. Donc il y a vraiment de quoi travailler de façon plus fine et plus qualitative.
Avec cette idée que c'est très important de favoriser effectivement la transmission des compétences dans les entreprises, des compétences qui peuvent se perdre. Par exemple, on avait vu que le retard de l'EPR de Flamanville était en partie expliqué par des pertes de savoir-faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Domergue?
Oui, tout à fait. Je suis très sensible à ce que vient de dire Annie Jolivet. Mais ça suppose qu'il faudrait former déjà les recruteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les recruteurs, en fait, reproduisent ce qu'ils connaissent. Enfin, ils embauchent les mêmes, les profils avec lesquels, c'est-à-dire que on mixe peu, c'est-à-dire que les mêmes diplômés, les mêmes qualifications, embaucher un senior pour eux, c'est pas habituel. Enfin, c'est quelque chose, c'est une anomalie. Ça, il faut déjà le changer dans les têtes. Donc, former les recruteurs à la non-discrimination. Bon, ça, il faudrait peut-être commencer par ça. Et puis après, il y a ce que vient de dire Annie Jolivet, la médiation active. Je sais que ça a été expérimenté. Ça signifie que aujourd'hui, on dit qu'il y a des emplois en tension, ils ne sont pas pourvus. Bon, alors que voilà. Mais peut-être faut-il que l'offre aussi s'adapte un petit peu à la demande. Enfin, il faut que des deux côtés, il y ait un rapprochement. Alors peut-être fait par un tiers. Parce que sans doute que l'employeur a besoin aussi d'être accompagné dans son recrutement. Et ça, c'est assez nouveau. Il faut le développer. Et c'est assez lourd, évidemment.
Mieux former les recruteurs, on l'entend bien, Jean-Paul Domergue, et aussi mieux former peut-être dès le milieu de la carrière les travailleurs afin qu'ils puissent se reconvertir plus facilement. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a seulement 3% des chômeurs de plus de 55 ans qui accèdent chaque année à des formation et le plan d'investissement dans les compétences qui se traduit par 15 milliards d'euros sur 5 ans et qui vise à former 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Pour l'instant, ce plan, il a surtout bénéficié aux jeunes, François Langlois.
Oui, non, ça c'est vrai que l'effort sur les demandeurs d'emploi seniors est insuffisant. Il y a vraiment besoin, effectivement, sur un marché du travail où les gens ont une expérience, sont vraiment concentré, spécialisé sur une tâche particulière. Effectivement, s'ils perdent cet emploi et donc ne peuvent plus exploiter cet avantage qu'ils ont sur cette tâche à 50 ans ou 55 ans, effectivement, il faut que le système public soit capable d'offrir immédiatement un plan de formation assez renforcé et que ce plan de formation soit évidemment concerté aussi avec les demandeurs de travail pour que les entreprises soient effectivement aussi partie prenante de ce plan, pour que si on forme quelqu'un, c'est qu'effectivement, derrière, on pense qu'une entreprise va être intéressée par cette personne. Et ça, effectivement, l'effort en France n'a pas encore été assez mis sur le marché du travail des seniors. Parce qu'effectivement, de par le passé, on s'habituait à un marché du travail où les seniors n'étaient quasiment pas au chômage. Mmh. Donc il faut aussi prendre en compte cette difficulté qu'ont les pouvoirs publics d'aujourd'hui, finalement, de mettre en place un système de reprise d'emploi sur un marché du travail où, de par le passé, les chômeurs ne cherchaient pas un travail.
Et alors, est-ce qu'il faut inciter ou est-ce qu'il faut contraindre les entreprises à engager davantage de seniors? Il y a plusieurs choses qui ont été envisagées. La Confédération des petites et moyennes entreprises, elle demande une baisse du coût du travail pour les seniors. Et d'autres proposent, au contraire, de créer un système de bonus-malus selon le taux d'emploi des seniors dans l'entreprise. Quel est le système que vous appelleriez de vos voeux, Annie Jolivet?
Je suis un peu désolée de dire qu'aucun des deux moyens que vous avez cités ne me semble très opérant. Enfin, d'abord parce que si on met en place une baisse du coût du travail pour les seniors, donc ça voudrait dire que les seniors, globalement, à partir d'un certain âge, ne méritent pas le salaire qui leur est proposé. Enfin, il y a peut-être des emplois, il y a peut-être des situations où la question peut se poser, mais je pense qu'il serait plus raisonnable d'aider les entreprises, par exemple, à adapter leur formation à l'embauche à des gens qui ne présentent pas toutes les caractéristiques. Mais ça suppose qu'ils aient déjà passé la barrière du recrutement. Ce qui peut être compliqué, comme quand par exemple aujourd'hui vous avez beaucoup de recrutements qui se font via des plateformes, ce qui demande quand même une certaine capacité à utiliser ces plateformes et à se présenter sous un jour un peu valorisé et à pas être éjecté au moment de la présélection.
Et un système plus punitif, François Alango, qui consiste justement à créer ce système de bonus-malus, ça ne trouve pas grâce à vos yeux non plus.
Le système bonus-malus, moi je le trouve très bien, mais ce que je n'aime pas trop par contre, c'est les politiques qui sont discriminatoires. C'est-à-dire que moi j'aime, vous savez très bien que on a eu en France par exemple des lois spécifiques sur le licenciement des seniors, donc ce qu'on appelait les taxes de la langue, etc. Ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est punitif en ciblant une certaine partie de la population active, alors il y a un effet de bord qui se produit. C'est-à-dire que ces personnes-là, comme elles sont vues par l'employeur comme étant plus coûteuses parce qu'elles sont corrélées à une taxe, forcément, ben, on les licencie juste avant que l'entreprise soit éligible à ce type de taxe, et donc elles n'apparaissent plus dans les effectifs. Donc si vous voulez, les mesures discriminatoires sur par âge, ou même par un autre type un autre critère, mais je pense que c'est pas très bien d'introduire ça sur un marché du travail. Je pense qu'il faut que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes opportunités. Bon, l'âge évolue, mais l'âge peut être compensé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un accroissement de productivité. Donc normalement, tout le monde peut prendre une place sur un marché.
Ça repose la question de la définition des seuils d'âge, parce qu'effectivement, ce qui avait beaucoup joué pour la contribution de la Lande, c'est que la contribution était due à partir d'un certain âge, si vous licenciez quelqu'un à partir d'un certain âge. Et donc effectivement, beaucoup d'employeurs, entre guillemets, ont joué la montre et licencié un peu avant. Il y a d'autres possibilités, j'ai en tête la Suède, alors c'est pas parce que la Suède est le modèle par excellence, mais par exemple la Suède n'a pas cet effet de seuil, hein, parce que la protection de l'emploi pour les licenciements est en fait une règle dernière entrée, première sortie, donc en fait qui licencie dans l'ordre inverse de l'ancienneté. Donc c'est pas un seuil d'âge qui joue, c'est un élément continu. Alors c'est pas pour promouvoir particulièrement cette règle, parce que c'est pas la...
Mais c'est un système qui fonctionne, semble-t-il.
En fait, la question, c'est vraiment d'utiliser un seuil plutôt que d'utiliser quelque chose de continu.
Jean-Paul Domergue, sur la possibilité de baisser le coût du travail pour les seniors ou de créer ce système de bonus-malus.
Nous, on pense surtout à ceux qui ont perdu leur emploi et qui en cherchent un. Donc, on pense que pour eux, il faudrait qu'il y ait, de la part du service public de l'emploi, un accompagnement approprié, un soutien différent, qui donc des moyens dédiés à ces situations pour que l'accompagnement leur permette de répondre à des offres d'emploi. Par ailleurs, il faudrait aussi que dans le domaine de la formation, alors ça je crois que le rapport Bellon le reprend aussi, le conseil en évolution professionnelle soit systématisé pour eux. C'est assez déterminant, et que des abondements donc au financement du conseil du CPF puissent aussi être plus substantiels pour eux, de façon à ce que on puisse envisager y compris des conversions dans certains cas.
L'objectif, c'est aussi d'organiser le travail différemment afin que des emplois qui étaient pénibles puissent être transformés en un autre type d'emploi.
Alors ça, c'est sûr que l'adaptation des postes de travail ou le changement d'organisation sont sans doute nécessaires pour un certain nombre, hein, surtout pour ceux qui ont des postes qui sont confrontés à des postes où il y a de la pénibilité. Il ne faut pas envisager, si vous voulez, les choses quand il est trop tard. Il faut les anticiper. anticipée, mais ça, ça fait partie de la gestion prévisionnelle.
Mais c'est l'idée de la retraite progressive, par exemple. Alors, l'un des objectifs, une des solutions proposées par le rapport Bellon, c'est d'élargir cet accès à la retraite progressive.
Oui, alors aujourd'hui, on sait qu'elle existe, mais comme c'est assez compliqué, c'est pas très connu.
C'est assez peu utilisé.
Très peu de bénéficiaires, on en compte 18 000. Donc c'est dérisoire. C'est des formules qui peuvent être développées si elles sont simplifiées et valorisées. Parce que aujourd'hui, les employeurs, finalement, à ça dans bon oeil. Enfin, un senior qui veut réduire son temps de travail, eh bien, il est pas. Les choses sont pas faciles pour lui. Enfin, c'est pas bien apprécié par l'entreprise.
Il y a cet enjeu de l'organisation du travail, et puis peut-être il faudrait réussir à favoriser ce cumul emploi-retraite, à le rendre plus attractif, François Langot.
Alors ça, oui, ça c'est une bonne mesure, et le rendre plus attractif, je pense que. Une mesure qui devrait être prise, c'est d'accepter que les gens qui sont en cumul emploi-retraite, bien, aient des droits supplémentaires à la retraite pendant qu'ils cumulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, je pense que ce serait une manière de rendre ce dispositif plus incitatif, puisqu'ils pourraient continuer du coup à cotiser, et donc du coup à avoir une retraite qui serait meilleure une fois qu'ils auraient terminé leur cumul. Ça, je pense que c'est une manière d'inciter les gens à effectivement faire profiter leurs connaissances plus longtemps dans l'entreprise et travailler plus longtemps. Ça, je pense que c'est une manière peut-être d'accroître encore plus rapidement l'emploi des seniors.
Est-ce que vous avez l'impression, Annie Jolivet, que le gouvernement a suffisamment pris conscience du problème aujourd'hui? Est-ce que ces réponses qui sont proposées, elles sont à la hauteur des enjeux?
Le gouvernement n'a pour l'instant pas annoncé de réponse sur cet aspect-là. Pour l'instant, il n'a commandé qu'un rapport, qui est un rapport après une longue série de rapports. Depuis 2003, l'emploi des seniors a quand même fait l'objet d'un intérêt continu, même si dans le grand public, l'information n'a pas toujours été évidente. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites.
Mais la commande de ce rapport est tout de même un bon signe. Jusqu'ici, on parlait assez peu de l'emploi des seniors. On va commencer à en parler davantage.
Il y a deux choses. Enfin, en tout cas, il y a deux mots dans le rapport, deux termes qui me semblent intéressants à relever. D'abord, le rapport, même si la demande était sur le taux d'emploi des seniors, le titre, c'est sur les travailleurs expérimentés. Alors, ça peut sembler un peu un affichage, mais ça converge vers l'idée que j'évoquais tout à l'heure, l'idée qu'il faudrait arrêter de se référer à des seuils d'âge explicites, à un âge chronologique pour définir la cible en question. Et il faut probablement de plus en plus évoluer vers des modes de gestion continue tout au long de la vie, un peu ce qu'était l'idée de la loi sur la formation tout au long de la vie en 2004, par exemple. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Et le deuxième que je trouve intéressant, même s'il arrive un peu loin, c'est l'idée du décloisonnement. C'est-à-dire l'idée que pour agir sur cette question-là, il faut probablement réfléchir à l'organisation du travail, au contenu du travail, à la formation, mais pas tout à fait sous l'angle que François Langot a évoqué plutôt, comment favoriser l'apprentissage dans le travail et la gestion du changement. Et ça exige de ne plus séparer d'un côté les compétences ressources humaines, de l'autre côté les compétences d'organisation du travail via du savoir de l'ingénieur, et puis aussi articuler des solutions individuelles et des solutions collectives.
François Langot, vous diriez que la commande de ce rapport et les différentes solutions qu'il propose ouvrent des perspectives intéressantes aujourd'hui et ont au moins le mérite de relancer le débat sur cette question?
Moi, je trouve toujours positif que le gouvernement se pose des questions sur les grands problèmes de société qui ont en plus énormément évolué depuis 30 ans. Donc,
l'emploi. On entendait des chercheurs dire que c'était le grand oublié, le grand absent de ce débat sur les retraites, la question de l'emploi des seniors.
Oui, mais peut-être parce qu'aussi une partie des économistes ont aussi en tête que en augmentant l'âge de la retraite, l'emploi va suivre. Et donc effectivement, il y a une grande partie de nos collègues qui ont ce type de mécanisme en tête. Moi, le premier. Donc effectivement, nous, on défend ce principe. Donc, mais il est clair que les seniors dans l'emploi, leur formation, le fait qu'ils travaillent de plus en plus longtemps, nécessitent de se questionner sur quel est le bon emploi, comment les former, comment les accompagner, comment ils doivent aussi changer de poste au fur et à mesure du temps. Tout ça, c'est des nouvelles questions qui se posent, mais heureusement qu'on se les pose, parce qu'avant, on n'avait pas à se les poser, ils ne travaillaient pas. Donc,
Jean-Paul Demacq, vous saluez vous aussi l'intérêt croissant pour cette question de l'emploi des seniors?
Oui. Alors, dans le rapport Bellon, on parle beaucoup du maintien de l'emploi et moins du retour à l'emploi. Et c'est, bon, c'est normal, c'est la solidarité nouvelle face au chômage, c'est plus le retour à l'emploi sur lequel on s'investit le plus. Et on trouve que à ce sujet, pour ceux qui sont en chômage, compte tenu de ce que nous disions tout à l'heure, puisqu'en en fait, quand on est senior au chômage, on y reste longtemps. Donc il faudrait vraiment mettre des mesures particulière d'aide au retour à l'emploi pour ces situations.
Et la route est encore longue, et la priorité c'est peut-être de changer les représentations, comme on le disait depuis le début de cette émission. Alors de notre côté, on va suivre le calendrier de la réforme des retraites qui sera présentée en Conseil des ministres dans une semaine, le 24 janvier. Merci beaucoup Jean-Paul Domergue, Annie Jolivet et François Langot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Annie Jolivet, je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Anne-Françoise Moulinier et Serge Volkoff, Le travail avant la retraite, emploi, travail et savoir professionnel des seniors, paru aux éditions Liaison. Je rappelle également le titre de votre livre, Jean-Paul Domergue, l'histoire de l'assurance chômage, publié à la Documentation française l'an dernier. Un grand merci à tous les trois. Et c'est l'heure de retrouver notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Et vous souhaitez revenir aujourd'hui sur la réforme des retraites, justement.
Eh oui, je sais qu'on en parle beaucoup sur les antennes de France Culture comme ailleurs, mais on le fait généralement au sujet de tel ou tel point particulier du projet de réforme. Si on essaye de prendre un peu de recul, ce qui est proprement sidérant, en fait, c'est plutôt l'amateurisme avec lequel l'ensemble de l'affaire semble être menée.
Pourquoi ce qui se passe, Guillaume, vous paraît-il si choquant ?
Avec cette réforme, le gouvernement entend donc bouleverser l'architecture et la logique de fonctionnement d'un bloc de dépenses qui représente aujourd'hui 14% du PIB, 1 euro sur 7 de la richesse produite dans le pays chaque année, ou encore le quart de toutes les dépenses publiques. Pour ce faire, il n'a jusqu'ici négocié réellement et cherché l'accord de personne. Ni celui d'aucun des partenaires sociaux, même les mieux disposés à l'égard du gouvernement, ni celui d'aucune composante de l'opposition politique. Et cela, bien que la base de sa propre légitimité soit et reste limitée. Le pouvoir actuel ne représente en effet depuis le départ que de l'ordre d'un électeur sur 4 au niveau des suffrages exprimés, et même au mieux un électeur inscrit sur 6.
Peut-être, mais il y a désormais un projet de loi qui va pouvoir être débattu au Parlement.
Oui, parlons-en de ce projet de loi. Il ne comporte aucun élément de chiffrage pour l'instant. Le gouvernement est totalement incapable de décrire précisément, de façon détaillée, transparente et vérifiable, le financement futur du système qu'il propose. Et il y a à ce stade de bonnes raisons de penser que cette réforme va créer sur ce plan un trou important dans le financement par rapport à la situation actuelle, du fait en particulier de la baisse drastique des cotisations retraite des employeurs publics qu'il prévoit. Ce gouvernement est également totalement incapable de préciser quelles seront les conséquences des changements proposés au niveau des individus et des différentes catégories sociales concernées en fonction de leur parcours. Et cela en particulier pour les salariés dont il a le plus directement la charge, les employés du secteur public.
Cela ne devrait pas empêcher cependant cette réforme d'être adoptée.
Oui, malgré cet amateurisme un peu affolant sur une question de cette importance, les institutions dysfonctionnelles de la Ve République peuvent en effet permettre au gouvernement de passer en force grâce à la majorité absolue dont il dispose dans une Assemblée nationale qui a perdu depuis assez longtemps déjà l'habitude de remplir son rôle central qui est de contrôler l'exécutif et de corriger les erreurs qu'il commet. Mais même si le gouvernement réussissait au final à faire adopter son projet, il n'aurait fait qu'aggraver la situation du système de retraite probablement. Il aura en effet renforcé la défiance des Français à l'égard de ce système, faute d'avoir su trouver, et même rechercher d'ailleurs, un consensus suffisamment large sur son fonctionnement et les principes de justice qui doivent le fonder. Alors que la retraite est un sujet qui nécessite fortement la recherche d'un tel consensus. Celui-ci est indispensable en effet pour pouvoir assurer la stabilité et la crédibilité d'un système qui est destiné en théorie à garantir pendant plusieurs décennies le contrat intergénérationnel.
Merci beaucoup Guillaume. Et la une d'Alternative Éco ce mois-ci.
Donc nous titrons sur la pollution, la face cachée du numérique. C'est vrai qu'on pense au numérique sous beaucoup d'aspects, mais pas suffisamment sous l'angle de la pollution que ça entraîne, à la fois par les émissions liées à la production d'électricité, mais aussi à travers les déchets que ça suscite.
Eh bien, on va lire tout ça attentivement. Un grand merci. Et pour clôturer en beauté notre semaine consacrée au néolibéralisme, c'est un ouvrage de Patricia Comin, professeure de civilisation allemande à l'université de Cergy, que nous avons choisi pour notre bibliothèque de l'écho. Dans son livre intitulé « Walter Eucken, entre économie et politique », publié avec Raphaël Fèvre, elle revient sur la voie spécifique de l'ordolibéralisme allemand, dont Eucken est le chef de file. Et au fondement de l'ordolibéralisme, dans les années 30, on trouve un diagnostic critique du libéralisme. Écoutons Patricia Comin au micro de Marguerite Caton.
Dans l'ensemble, L'atmosphère générale est au désordre, à la fois politique, sociale, économique. Et le libéralisme du 19e siècle, le laisser-faire, est rendu responsable de tous les maux.
De la crise de 29. Et ses conséquences en Allemagne sont...
Tout à fait. Donc, il s'agit de prendre position vis-à-vis de cette critique d'une part, et puis de proposer des alternatives et de faire, comme vous le dites, un diagnostic. Parce que jusqu'à présent, le problème était que seules des politiques réformistes étaient envisagées. Et les ordolibéraux considèrent que il y a une sorte de biais théorique et méthodologique faux qui préside aux politiques réformistes. Une politique réformiste ne vient pas à bout de crises importantes. Il fallait un changement structurel, un changement de paradigme qui supposait un changement d'ordre méthodologique et théorique.
Cette école de Fribourg en train de se développer, est-ce qu'elle se revendique à l'origine proche des réflexions de ceux qui s'appellent les nouveaux libéraux, qui se rassemblent lors du colloque Lippmann à Paris en 1938? Est-ce qu'ils participent au colloque Lippmann?
La réunion du colloque Lippmann est très importante. Ils participent à ce colloque. Le problème est que, bien sûr, c'est un colloque qui se positionne sur une nécessaire redéfinition du libéralisme et en particulier d'un libéralisme social. Et à cette époque-là, naît une divergence fondamentale entre les libéraux tendance française et même américains et les libéraux allemands. Les Allemands considèrent que ce qui est essentiel, c'est de protéger le bon fonctionnement d'une économie concurrentielle et donc de s'opposer à la constitution de monopole qu'ils rendent responsable de l'avènement d'une dictature en Allemagne, du national-socialisme. Alors que les Français n'ont pas d'opposition systématique vis-à-vis de la constitution des monopoles et des grands groupes. C'est sur ce point qu'ils vont avoir une divergence qui ira en s'agrandissant au fur et à mesure des années 50. Alors après, la constitution du groupe, elle s'est faite, mais pas de manière systématique. Ce qui a uni ces gens-là, c'est d'abord la résistance et l'opposition à la dictature et au nazisme.
Et à la prise du pouvoir d'Hitler en 1933.
La prise du pouvoir d'Hitler. Alors ce qui était intéressant à noter d'ailleurs, c'est que ce sont plutôt les plus conservateurs d'entre eux, c'est-à-dire Röpke et Rüstow, qui doivent quitter l'Allemagne et qui sont des opposants très, très clairs.
Ils vont, et c'est notable, à Istanbul, en Turquie. J'ai découvert que la Turquie avait été une terre d'accueil pour les émigrés allemands.
Alors que Walter Röken, lui, fait davantage des attitudes plus de compromis. Il reste en Allemagne.
Mais il publie en 1936, et je voudrais qu'on s'y arrête, un article qui définit la mission qu'ils veulent se donner en tant qu'économistes dans la sphère publique. C'est intitulé « Unsere Aufgabe », notre mission. Qu'est-ce qu'ils revendiquent du coup pour les économistes comme place dans la société?
Exactement. Alors les économistes ont une place d'expert, de conseiller, ils doivent susciter les changements structurels qui devront se produire. Doivent aussi repenser le lien entre l'État et l'économie. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que il s'agissait de s'opposer à l'idée du primat du politique. Ça, c'était un slogan national-socialiste très important. Pour les ordolibéraux de l'école de Fribourg, l'État, s'il est trop régulateur ou trop interventionniste ou trop dirigiste, il n'est pas créateur d'ordre mais de désordre. Et c'était
c'est vraiment
le cas de l'État national-socialiste et du gouvernement national-socialiste.
Cette notion d'ordre, on peut s'y arrêter un peu, c'est au cœur des recherches de Walter Röken. Dans votre ouvrage d'ailleurs, Patricia Comin, vous proposez la première traduction en français d'un de ses articles, 1948, « Le problème politique de l'ordre ». Alors, vraiment, expliquez-nous de quoi il s'agit.
L'ordre, il est multiple. Ce n'est pas un ordre qui doit être imposé, justement. Et alors, il faudrait peut-être revenir sur la signification politique de ce mot dans ce contexte national-socialiste. Les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir en promettant de revenir à l'ordre et en promettant de revenir à l'ordre dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, dans une crise extrêmement difficile.
L'hyperinflation.
Voilà, l'hyperinflation, le chômage de masse, etc. Donc l'ordre, c'était déjà l'idée de revenir sur l'ordre et de l'associer au libéralisme, c'était le moyen de montrer que libéralisme ne signifiait pas désordre, mais pouvait être un autre type d'ordre.
On comprend, c'est déjà un programme anti-nazi. Oui.
C'est un programme tout à fait anti-nazi. Il ne s'agit pas tellement de demander une régulation politique permanente, avec un interventionnisme permanent, mais de demander une constitution économique, un cadre à l'économie de marché. Il était important que les ordolibéraux soulignent aussi les manques du libéralisme classique, en disant la liberté ou le droit de propriété et la liberté contractuelle ne sont pas suffisantes pour garantir le libéralisme économique. Il faut d'autres éléments. Il faut un cadre qui garantisse la coordination des activités économiques. Tout comme sur le plan politique, on a besoin d'une juridiction, d'un rule of law. Il faut la même chose sur le plan économique.
Alors, dans ce qui concerne l'État et son rôle dans l'économie, il y a soit un État donc faible, vendu presque celui des démocraties européennes dévoilées par la crise de 1929. À l'autre bout du spectre, un État autoritaire et planificateur, celui du national-socialisme et de l'URSS. Mmh. Donc eux, ils veulent créer une troisième voie. Concrètement, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre comme constitution économique? Qu'est-ce qui, dans la constitution allemande, relève des idées ordolibérales?
Alors, il n'existera pas et il n'a jamais existé de constitution économique en tant que telle. Ceci étant, ce qui est important et ce qui est noté aussi dans la constitution allemande, bien sûr, c'est le droit de la propriété la liberté économique est quelque chose d'essentiel et est une liberté aussi constitutionnellement défendue. Mais ce qui a été fait sur le plan institutionnel, c'est la création d'un office des cartels et puis la création d'une banque centrale indépendante du pouvoir politique, puisque on avait fait l'expérience en Allemagne de la collusion entre le pouvoir financier, le pouvoir bancaire et le pouvoir politique. Et ça, il était hors de question de revenir là-dessus. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Français et les Allemands ont souvent des malentendus, puisqu'ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes positions sur ces questions-là. Mais ça, c'est ce qui est de tradition ordolibérale. Plus récemment aussi, l'idée d'un frein à l'endettement.
Quand est-ce que ça a paru et que ça est admis dans le corpus idéologique de l'ordolibéralisme?
Alors, le frein à l'endettement n'était pas clairement... On parlait de stabilité monétaire, mais ça, l'idée d'un frein à l'endettement est récent. Il a été établi il y a une dizaine d'années par un des conseillers de Mme Merkel, qui s'appelle Lars Feld, qui est directeur actuellement de le Walter Hocken Institute, et qui a justement fait en sorte que ce frein à l'endettement soit établi en Allemagne, comme il l'est en Suisse aussi, par ailleurs. Walter Hocken a peut-être à dire plus de choses aux Français qu'aux Allemands aujourd'hui, curieusement, au sens où on voit qu'on essaye de mener des politiques centralisatrices et en essayant de régler depuis l'État des problèmes très complexes. Une des leçons à retenir de l'ordolibéralisme, c'est que les problèmes de nos sociétés sont trop complexes, trop compliqués pour être gérés de manière
rationnelle par un seul centre.
Par un seul centre. Ça, c'est une leçon à retenir. Maintenant, la question de la concurrence et l'opposition, la création de grands groupes, de monopoles, je pense que n'a peut-être plus lieu d'être dans la mesure où les marchés aujourd'hui ne sont plus européens, ils sont mondiaux.
Merci beaucoup Patricia Comin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Walter Hocken entre économie et politique, avec Raphaël Fèvre aux éditions de l'ENS Lyon. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in out of love, but you know I can't find it.
C'est la fin de cette émission. On se quitte avec Lost Day du groupe américain Other Lives. Un grand merci à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Anne de Pelchin, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Alain de Recourt. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck, à la technique Thibaut Nassim Ben. La semaine prochaine, on entendra l'écho de La Grande Faucheuse, nouvelle série consacrée à l'économie de la mort. D'ici là, bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.